todas queremos gritar que no queremos, no vamos a permitir que esos derechos que tanto han costado conseguir, pues nos sean arrebatados.
Si les femmes espagnoles ont aujourd'hui la possibilité d'aller à l'université, c'est en partie grâce à Maria de Maeztu, la fondatrice de la résidence des demoiselles. Découvrez à travers l'histoire de sa vie, celle de quatre de ses disciples.
Janvier 1930.
Primo de Rivera, de moins en moins soutenu par l'armée, présente sa démission. C'est comme ça qu'après la victoire écrasante des partis républicains aux élections municipales, la Seconde République espagnole est finalement proclamée le 14 avril 1931. Ce changement politique fait des heureuses au sein de la résidence, puisqu'il s'agit d'un début tant attendu vers l'accès des femmes à la citoyenneté. Votre joie, à toi Maria et à tes étudiantes, ne fait qu'augmenter lorsque vous apprenez la nomination de Victoria par le nouveau gouvernement de Manuel Azaña, au poste de directrice générale des prisons. Elle est la première femme espagnole à fissurer le plafond de verre en accédant à ce poste qui lui permet d'humaniser davantage le système pénitentiaire espagnol.
8 mai 1931.
Aujourd'hui, un décret déclare les femmes éligibles à l'Assemblée constituante. Victoria et Clara s'empressent de se présenter aux élections qu'elles remportent haut la main. Elles sont les deux premières femmes espagnoles à être élues députées. Le 1er octobre, un débat animé et intense les oppose concernant le droit de vote des femmes.
Je crois que le vote féminin doit être reporté,
déclare Victoria.
Dans quelques années, lorsque la femme verra les bénéfices de la République qui l'aura éduquée et la vie de ses enfants changée grâce à la République, alors, messieurs les députés, la femme sera la plus fervente, la plus ardente défenseuse de la République. Si les femmes espagnoles étaient toutes des ouvrières, si les femmes espagnoles avaient eu accès à l'université depuis déjà un moment et qu'elles étaient libérées dans leur conscience, je me lèverai aujourd'hui face à l'Assemblée pour demander le vote féminin. Mais à cette heure, je me lève justement pour vous dire le contraire. Et c'est avec tout que je le dis.
Sa crainte, à ce moment-là, est que les hommes et l'Église arrivent à influencer les femmes pour utiliser leur voix électorale à des fins conservatrices. À cela, Clara Campoamor répond.
Comment peut-on dire que l'on accordera comme récompense le droit de vote aux femmes lorsqu'elles auront donné signe de vie pour la République? En parlant élogieusement des femmes ouvrières et des femmes universitaires, ne sommes-nous pas en train de démontrer leur capacité? Moi, messieurs les députés, je me sens d'abord citoyenne et ensuite femme. Et je considère que ce serait une profonde erreur politique que de laisser les femmes en marge de ce droit. Ces femmes qui attendent et qui vous font confiance. J'ai vu dans les yeux de ces femmes l'espoir de la rédemption. J'ai vu le désir d'aider la République. J'ai vu la passion et l'émotion qu'elles mettent en ces idéaux. Les femmes espagnoles attendent aujourd'hui de la République leur propre rédemption et celle de leurs enfants. Ne commettez pas d'erreur historique. Vous n'aurez jamais assez de temps pour pleurer d'avoir laissé les femmes en marge de la République, qui représente une nouvelle force, une force jeune. Clara fait également partie de la commission chargée de rédiger le projet de constitution. Son intention, en tant que féministe républicaine, est d'être présente dans les débats constitutionnels pour intégrer dans les textes une amélioration de la condition féminine. En effet, la Constitution reflète une avancée cruciale dans l'évolution des droits des femmes en Espagne. Certaines des revendications les plus importantes du mouvement féministe y apparaissent, comme par exemple le droit au divorce en 1932, ou le droit de vote universel finalement officialisé en 1933. L'accès des femmes à la citoyenneté symbolise leur arrivée dans la vie publique et politique du pays, en les rendant enfin visibles comme collectif. Josefina, après l'obtention de son diplôme, devient, elle, journaliste dans la revue Estampa, dirigée par son cousin Vicente Sánchez Ocana. On peut dire que ton travail, Maria, a payé. En établissant un réseau de sororité, tu réussis à créer du lien entre plusieurs résidentes, puisqu'elle décide d'interviewer Victoria. Son article fait tellement sensation qu'elle obtient un poste fixe de rédaction dans la revue. Ce papier lui permet de se différencier des autres femmes, qui continuent à aborder des sujets tels que la cuisine ou la beauté en rapport avec la figure de la fée du logis.
En 1932, elle devient chroniqueuse dans les journaux Ahora, La Bosse, La Cronica et El Mundo Gráfico. Elle intègre également la radio La Palabra de Unión, où elle intervient tous les matins à 8h. Elle est la première journaliste espagnole à pouvoir vivre de son travail.
Toi qui voulais, Maria, créer un établissement qui puisse aider les femmes de ton époque à s'affranchir des nombreuses injonctions qui pesaient sur elles, on peut dire que tu as réussi ton coup, et ce, avec brio.
Ça y est, l'épisode est déjà terminé. Pensez à liker, à mettre un commentaire ou encore à partager ce podcast s'il vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.